Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Et je vous propose une première lecture, si vous le voulez bien. Nous allons aller dans la deuxième épître de Pierre, et nous allons lire tout simplement, deux versets. Le thème, le sujet de notre méditation ce matin, nous allons aborder la question de la création et de la rédemption. C'est un message de Pâques, hein? Rédemption. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est la question que je pose et on va tâcher d'y répondre. Alors pour cela, mythe ou réalité? Dans 2 Pierre, deuxième lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 1er, verset 16, et ensuite nous passerons au verset 19. Verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis maintenant, nous allons lire le verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Pierre ouvre une réflexion que la foi chrétienne n'est pas des fables, ne sont pas des fables habilement conçues, mais que ça relève d'une révélation, prophétique. C'est ce que nous lisons. Nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de faire attention. Et nous vivons dans une période, dans un temps, où tout est remis en cause. Ce conflit qu'il y a entre le créationnisme, c'est-à-dire cette doctrine biblique où les chrétiens tiennent et nourrissent leur foi de ce que Dieu a créé le monde, tout ce qui s'y trouve, qu'il a donné la vie à l'humanité, ce que nous sommes, et puis cette confrontation avec l'évolutionnisme. Alors, je ne veux pas être très compliqué, je vous le dis tout de suite parce que ce sont des grands mots, mais on va essayer de faire une approche autour de la question, parce que c'est important. Alors, nous sommes des lecteurs attentifs et nous faisons bien attention à ce que nous dit la Bible. Et ça peut se comprendre et ça peut se saisir par la foi, uniquement par la foi. Et puis cette prétention des hommes, où, là, on avance que, l'homme, par des temps, des époques successives, a évolué. Alors, je voudrais quand même signaler, avant d'aller plus loin, que il y a deux vices. Un vice de fond et un vice de forme. Le vice de fond, c'est que Dieu nous a créés pour que nous devenions semblables à lui. Or, vice de fond, la chute de l'homme, cette humanité perdue et égarée dans tous les domaines, et à travers naturellement la présence dans ce monde du péché qui reste, comme Paul le dit, le mystère de l'iniquité. Vice de forme, parce que moi je me sens pas à la ressemblance d'un singe. Évidemment, ça tombe sous le sens, mais c'est pas évident pour tout le monde. Alors, naturellement, on a ces choses qui sont en confrontation. Alors ça, c'est une introduction, création, rédemption, mythe ou réalité. Je voudrais maintenant aller plus loin, et nous allons ouvrir une autre page de notre Bible, À travers cette petite histoire, je vais pas la lire entièrement parce qu'elle est complètement suffisante, me semble-t-il. C'est une parabole que Jésus nous rapporte, et vous allez deviner si je vous donne la situation biblique, Luc chapitre 15, il s'agit de l'histoire du fils prodigue. Alors, quelle association pouvons-nous donner dans tout cela? Alors, nous allons essayer de réfléchir à cela, mais ça sera néanmoins quand même sur un autre texte que nous allons méditer, qui va nous ramener dans l'Ancien Testament ensuite. Mais d'abord, commençons par Luc, chapitre 15, verset 11. Écoutez bien, vous connaissez, hein. On l'a appelée la perle des paraboles, parce que elle dénote bien, elle met bien en évidence, eh bien, la condition de l'homme, sa perdition. Alors, Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Alors après, il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux, etc. Vous connaissez l'histoire. Alors ceci dit, et ceci lu, eh bien nous allons justement prendre en considération les premières questions que nous avons évoquées il y a un instant, parce que c'est quand même important que nous puissions avoir une foi saine. Ce n'est pas par des fables ou par des mythes, ou encore moins des légendes, eh bien, que les premiers apôtres, que ce que nous faisons encore est le témoignage et le relais de témoignage que nous donnons encore à notre monde aujourd'hui, dans notre temps, ce ne sont pas par des mythes, ce sont par, tout simplement, ni des légendes, toutes sortes de choses qui font gamberger l'homme dans ses pensées, dans ses rêveries, et qui en arrivent à non seulement dénaturer, mais outrager le Dieu créateur. Et s'outrager soi-même, parce que nous ne sommes pas, finalement, eh bien là, le produit d'accidents dans un univers d'accidents. Alors, ceci dit, nous avons lu en deuxième position que Jésus utilise cette parabole pour mettre en évidence, eh bien, tout simplement le processus qui a conduit l'humanité à la chute. Voilà. À travers, naturellement, l'histoire de ce garçon que vous connaissez fort bien, qui à un moment donné, malheureux d'être heureux, va voir son père et lui dit maintenant, eh bien, écoute, moi, ça suffit. J'ai envie de vivre. J'ai envie d'indépendance. J'ai envie de liberté. Alors je te demande, on va régler nos affaires. En principe, c'est quand même assez curieux, je sais que ça se fait aujourd'hui, de venir chercher l'héritage des parents avant qu'ils soient morts. Mais bon, là aussi c'est une évolution, ou une révolution. Mais toujours est-il que on est quand même surpris, hein, mais Jésus prend les choses comme il nous les présente pour que nous puissions réfléchir à tout cela. Si les mots ont un sens, alors à ce moment-là, on va découvrir des choses. Parce que il est question dans la parabole d'un père et d'un fils. Bon, il y en a deux, mais c'est celui, le premier, qui nous intéresse. L'image de Dieu et de cette humanité. Il est question également d'une prétention ou d'une proposition quand même hardie, audacieuse, où le fils va dire à son père, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Ben, si nous regardons, parce que nous allons les fouiller après dans le livre de la création, que la part de bien, Dieu nous l'a déjà donnée et on l'a gâchée. Constatation faite, c'est qu'il nous l'a déjà donnée. Et qu'est-ce que nous en avons fait? Alors, donne-moi la part de bien. Nous lui ai parlé tout simplement que le Père, parce que Dieu est bienveillant, parce que Dieu respecte une chose importante, chez sa créature, parce que nous ne sommes pas des automates, nous ne sommes pas des mécaniques qu'il aurait remontées une fois pour toutes et que là nous serions tout simplement sous le dictat divin, et que nous n'aurions pas le droit de penser, pas le droit de faire, etc., etc. C'est le contraire, Dieu nous a laissés libres. Et donc, il leur partagea, emblème, symbole de la liberté totale. Et puis voilà que ce garçon, tout content, va courir dans l'aventure, et il va, il nous est dit, dissiper. Il est parti loin des yeux, donc loin du cœur, et il s'est dit, eh bien, je vais pouvoir faire dans ce pays éloigné, parce que le mot éloigné a un sens aussi. Cette humanité qui s'éloigne, qui s'est éloignée de son créateur. Et résultat des courses, excusez-moi l'expression, c'est un petit peu familier, mais il a vécu dans la débauche. Tout s'est acquis, il ne l'a pas vécu pour le faire fructifier, pour finalement, eh bien, en faire du bien, mais en faire du mal, ou en transformer en mal pour lui-même. Et on l'a lu ensuite, eh bien, après avoir tout dilapidé, après avoir vidé son compte en banque, après avoir, eh bien, saccagé, souillé son capital vie, résultat, c'est qu'il s'est trouvé dans le besoin. Si nous faisons et si nous suivons ce raisonnement, nous allons voir et nous pouvons regarder à travers toute l'histoire. En y intégrant l'histoire d'Israël, peuple élu, peuple privilégié et béni. Résultat, crucifixion. Et puis diaspora. Si nous regardons notre société dite chrétienne, prétendument dite chrétienne, après des siècles et des siècles de civilisation, où il y a quand même des choses qui se sont faites, il faut bien le reconnaître, mais où on a quand même poursuivi l'histoire et la voie de Babel, c'est-à-dire cette dispersion, et puis cette indépendance de Dieu qui a fait que les hommes n'arrivent plus à s'entendre les uns les autres, ça c'est sûr, avec tout ce que cela peut comporter. Alors, nous allons aborder trois petites histoires. C'est l'histoire biblique, je peux vous raconter des légendes et des mythes, puisque, voilà. Trois histoires, trois étapes de l'humanité. On reste toujours en mémoire. Est-ce que tout ce que nous raconte la Bible, c'est un mythe ou véritablement une réalité? Alors, moi, je parlais à des gens convaincus, mais je sais que ce n'est pas certainement, acquis pour tout le monde autour de nous, puisque une grande majorité réclame son indépendance par l'incrédulité de ce que nous déclare la Bible. Une question souvent entendue, que l'on m'a posée, qu'on vous a peut-être posée, mais si Dieu est, et si Dieu était bon, alors comment expliquez-vous et pourquoi la souffrance dans ce monde? C'est du grand classique, mais ça vous le savez. Pourquoi la souffrance? Pourquoi le mal, avec son aboutissement, la mort? Je préciserai que c'est une objection qui, passez-moi le mot, il est très fort, mais qui outrage. C'est un outrage au caractère moral de Dieu. Parce que Dieu est juste, il est saint, il est bon, et il a tout fait pour que l'homme puisse vivre dans sa présence, par la confiance, et vivre et connaître la plénitude de la vie d'abord sur la terre et ensuite dans le ciel. Vous savez que c'est toujours Dieu qui est accusé du mal, C'est toujours lui qui prend. C'est lui que l'on emmène dans les tribunaux. D'ailleurs, l'expression que quand il arrive quelque chose de fâcheux à un homme, la première chose qui sort de sa bouche, excusez-moi, mais c'est nom de Dieu. On s'en prend toujours à Dieu, mais on oublie celui qui en est l'inspirateur du mal, et celui qui est la cause de toutes ces choses. Alors, moi je suis pas là pour prendre la défense de Dieu, parce qu'il est suffisamment grand pour prendre sa défense, mais toujours est-il que quelquefois c'est bien de remettre les choses un petit peu en place. Donc, le monde qui croit davantage à cette évolution spontanée, progressive, ne fait que manifester son incrédulité, et ça, c'est quelque chose qui met à mal qui fait avorter le salut, parce que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi et l'incrédulité, le refus de croire ce que Dieu a dit, eh bien nous perd. C'est l'incrédulité. Alors, ou plutôt hors l'explication du mystère, parce que ça reste mystérieux, se trouve tout simplement dans le livre des origines que l'on appelle le livre de la Genèse, que je vous invite maintenant à ouvrir. Livre de la Genèse, ouvrez au chapitre 2. Et ce livre de la Genèse dévoile l'effondrement de l'humanité tant sur le plan physique, parce qu'il suffit de voir le développement de notre vie, nous naissons, nous grandissons, nous croissons, et puis nous devenons vieux, et là, eh bien, il y a toutes les stigmates du temps qui a passé sur nos vies, et avec son aboutissement, la mort. Donc, physique, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Selon le plan premier de Dieu, c'est-à-dire de la création et de ses intentions, Dieu a créé une humanité destinée à l'harmonie. Je voudrais quand même le souligner. Oui, même si les choses ne sont plus, même si tout a été défiguré, dénaturé, déformé, eh bien moi je dis que Dieu a créé une humanité pour l'harmonie, l'ordre et le bonheur. Dans ce chapitre 2 que vous avez ouvert il y a un instant, il nous est déclaré cette petite phrase que lorsque Dieu a vu sa création, alors création du monde minéral, du monde végétal, du monde animal, alors à ce moment, il a eu cette satisfaction divine, il nous est dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Alors aujourd'hui, ça peut faire sourire pas mal de gens. Pas les chrétiens, parce que nous le tenons comme parole prophétique. Dieu a dit que, eh bien, il avait créé tout très bon. Il ne nous est pas dit qu'il a créé le monde parfait, qu'il a créé un monde dans la sainteté complète et totale, mais que tout était très bon. Ça, c'est les premiers pas. C'est les premiers éléments de cette création que Dieu, eh bien, a lancée dans cette carrière. Et nous constatons que, au regard de tout le spectacle que nous donne notre monde, l'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, l'histoire des civilisations à travers les siècles et les siècles, jusqu'à maintenant, ce n'est fait que de rébellion et de désordre et de révolte, de sang, de guerre, d'exploitation de l'homme sur l'homme, et toutes sortes de choses qui font la constatation que notre monde est un monde malade et un monde mortel. Et que le monde continue à s'évertuer comme à Babel, à vouloir construire une civilisation, une société, une humanité qui tend vers l'âge d'or. Et pourtant, nous en avons les preuves tous les jours. Moi, je dis que, comme dit Paul dans Romains, que la création de Dieu, la création dont nous parlons, se voit comme à l'œil nu qu'on le considère dans ses ouvrages. Et ils sont donc inexcusables, les hommes. Parce que quelque part, en essayant de ramer pour faire un monde qui n'arrive pas à suivre, et qui nous prétend être un beau monde, ben vous savez, il y a quand même les trois quarts de l'humanité qui n'ont pas toujours de quoi manger tous les jours. Et quand on parle de ceci, de cela, alimentant les médias de guerre, de sang, de drogue, de prostitution, de toutes sortes de trafics. Alors on peut pas dire que, voilà, on peut pas dire qu'on va vers l'âge d'or. Mais l'homme y croit. Il y veut, il veut. Il se dit, si on est sorti, si on est descendu du singe, eh ben on va quand même rectifier et changer, eh bien, la nature humaine, la façon de vivre des hommes. Alors on y arrivera quand même par la force du poignet. On marchera, eh bien, on ira à force, marche forcée, mais on ira quand même. Parce que ça, c'est dans la montée de l'évolutionnisme, vous comprenez? Alors, la première histoire. La première histoire, c'est dans Genèse, chapitre 2, au verset 7 à 17, je vais le lire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, donc nos origines, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'âme devint une âme vivante. Comprenez. Puis l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va aller un petit peu plus loin, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors, je voudrais quand même dire, faire un petit préambule, c'est que la conscience, presque effacée, non, il reste encore quelques soupçons, presque effacée des événements de la création et de la chute, a marqué, ou voire peut-être influencé nombre de peuples dans l'Antiquité, dans les grands empires et dans les grandes civilisations jusqu'à nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien quelque chose. Bien sûr, on peut toujours se réfugier dans la pensée de l'évolution. Mais dans toutes les cultures, il y a peut-être dans notre culture judéo-chrétienne où on ne croit plus en rien, que les choses sont véritablement marquées. Là, c'est vraiment de plus en plus effacé. Alors que nous devrions être des maîtres, dans cette approche de Dieu. Mais quand vous regardez dans tous les peuples, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions qu'ils pratiquent, il y a au fond de la conscience de l'homme, eh bien, cette notion de création sous forme de mythe, sous forme de légende, qui ont un caractère naturellement du paganisme. Mais il y a quelque chose qui les interpelle. Je prends par exemple, parce que nous allons discuter ce matin, l'image du serpent. On va y venir tout à l'heure. L'image du serpent dans beaucoup de sociétés, de l'Antiquité comme d'aujourd'hui, que ce soit les Mèdes, que ce soit la Babylone, que ce soit chez les Hindous, même chez les Chinois, dans les religions d'Extrême-Orient, et dans bien d'autres choses, les Sémites, entre autres. Alors, le serpent est présenté comme l'emblème du mal et d'une puissance mystérieuse. C'est encore ancré dans les sociétés d'aujourd'hui, avec des pratiques religieuses. Je prends l'histoire du paradis. Paradis, c'est un mot donc qui a été traduit par Éden, c'est un mot persan qui veut dire jardin. D'accord? C'est ce que les hommes poursuivent avec l'âge d'or qu'ils attendent. Alors, l'idéal perdu, l'idéal humain perdu. D'un paradis perdu, si vous voulez. L'arbre de vie symbolise naturellement l'éternité. Le fruit qui donne la vie, le fruit qui donne la vie éternelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le fruit défendu. Alors je vous arrête, c'est pas une histoire de pomme. Parce que dans la pomme, il y a des pépins. On a eu quand même peut-être pas la pomme, mais on avait les pépins. Mais une chose qui est certaine, c'est que on a brodé toutes sortes d'histoires autour de ça. On nous a dit que le péché premier, originel, eh bien, c'était sous l'emblème de ceci et cela, mais on a raconté toutes sortes d'histoires et on a fait croire ça même dans les religions chrétiennes. Toutes sortes de choses, c'était Adam et Ève, etc., et puis leur promiscuité, etc., etc. Bon, on a raconté n'importe quoi, n'importe quoi. On en a stigmatisé les péchés tout à fait particuliers, naturellement, avec ça. Par exemple, la notion de l'arbre de l'arche de Noé, qui n'est pas dans notre texte et qu'on ne va pas étudier aujourd'hui, ça, c'est peut-être le fait biblique de l'origine de l'humanité, de ce salut venu par un homme qui s'appelle Noé, un homme de foi et de justice, qui construit une arche, et qui là, eh bien, a été le plus connu et le plus reconnu dans toute l'histoire de l'Antiquité. Ah oui. Alors, c'est quand même à dire tout cela parce que ça va peut-être nous éclairer sur certaines choses. Donc nous avons lu Genèse 2, 7, 17. Nous sommes en présence d'un Dieu créateur et de sa créature, donc humaine, l'homme. Le chapitre 2, c'est le chapitre des conditions de bonheur de la vie sur la terre. Ah ouais, tout est préparé, tout est mis en œuvre, tout est mis en place, avec un point essentiel qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'homme a été créé libre. Je le répète, nous sommes des êtres libres. Nous avons la capacité et la faculté du libre choix, du libre arbitre. Et le grand dilemme, c'est précisément le choix. Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais faire? Nous sommes confrontés aujourd'hui, depuis la chute, entre le bien et le mal. Et au milieu, il y a notre conscience, comme une boussole, comme un avertisseur, comme quelque chose qui nous dit que nous ne sommes pas des animaux, que nous ne sommes pas de ce genre, de ce type de création, mais que nous sommes des êtres supérieurs. L'homme a été créé par Dieu pour être le roi de cette création. Dominez sur toute la terre, nous dit Dieu. Multipliez-vous, la terre elle est pour vous. Alors, c'est le problème du choix, c'est un dilemme, on peut dire le mot. Hein. C'est l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue avait la faculté de rester avec son père et de bénéficier de tous les biens, de tous les avantages de son statut de fils dans la maison paternelle, ou alors il avait le choix de s'éloigner de son père. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Si vous reportez ça sur le plan de l'humanité, vous verrez que c'est exactement la même chose. Quand Jésus nous raconte cette histoire, mais ce n'est pas pour rien. Parce que derrière cette histoire du fils prodigue, il y a le salut de Dieu. Et on va le voir d'ici quelques instants. Alors, dans notre lecture, il est question de deux arbres qui figurent cette liberté. Deux arbres, imaginez-vous comme cela. Hein, à travers le verset 7, le verset 9, hein, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, donc l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Pour autant que l'arbre de la vie typifie la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, cette dépendance de Dieu, cette relation intime avec Dieu, alors l'autre arbre, celui que l'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, atteste la libre expérience, le choix mauvais de l'homme. En d'autres termes, l'indépendance. Vous savez que dans l'histoire des peuples, quand un peuple prend son indépendance par rapport à un dictat d'un autre pays, ça se passe toujours par une révolution ou une guerre ou des choses comme ça. Ça, c'est la règle hein, dans le monde. Hein. C'est rare quand les choses se passent bien. Bon. Mais toujours est-il que ça, c'est l'histoire de l'humanité. Ce grand mot, l'indépendant. Je veux être libre. Je n'ai pas besoin de Dieu. Pourtant, Jésus nous dit dans un autre passage que nous connaissons, fameux parabole s'il en est, du cep et du sarment, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui, quelquefois, attire les moqueries d'un monde incrédule en disant, mais sans Dieu, nous pouvons rien faire. Regardez, nous avons fait tellement de choses. On est capable d'envoyer dans le ciel un tel engin, et puis on est capable de faire, quand on regarde les réalisations hein, de notre siècle, de notre temps, on se dit, bah, c'est vrai que l'homme, ah oui, mais quand Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est sur le plan moral et sur le plan spirituel, parce qu'autant l'homme a évolué peut-être dans les choses hein, physiques, dans le monde qui peut être qualifié de monde matériel, en tous les cas dans le reste, il ne brille pas. Hein. Au contraire, il s'enfonce de plus en plus. Alors, indépendance qui substitue le choix humain et la volonté prééminente de l'homme, ce qu'on appelle le vieil homme, l'homme qui voilà, s'affirme, qui veut faire sa volonté, ça se substitue à l'éducation paternelle de Dieu, ou du Père pour nous en tant que chrétiens. Voilà. Il y avait un chemin, il y avait une route, il y avait une orientation, il y avait une direction. On se dit, c'est pas la peine, le fils prodigue, mais moi, ça commence à devenir un peu lassant. Il se passe rien dans la maison du Père, vous comprenez? Je ne sais pas ce qui se passait dans le jardin d'Éden, mais ça devait, à un moment donné, peut-être, comme je l'ai dit, malheureux d'être heureux. C'est bien le monde d'aujourd'hui. Hein. Vous savez, il faudrait regarder un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays. Hein. Et je pense que nous, Français, on bénirait tous les jours le Seigneur. Hein. Je le répète souvent parce que c'est vrai que le Français est quand même un râleur, non? Excusez-moi. Hein. Dès lors, l'homme plongera dans l'incrédulité de ce que Dieu dira. Je donne le schéma. Quand l'homme a été créé, il y avait une foi totale, confiance totale en son Créateur, en son Dieu. Pas de problème, ça fonctionnait. L'homme a voulu écouter une autre voix, la voix du serpent dont nous allons parler tout à l'heure. Il est tombé dans la crédulité du mensonge. Vous avez remarqué que les gens sont plus enclins à croire au mensonge qu'à la vérité. C'est étonnant, hein. Et de là, puisqu'il n'a pas pris la voie médiane, celle de la foi, de sa crédulité dans le mensonge, il a cru bêtement. Alors à ce moment-là, il est tombé dans la crédulité de ce que Dieu dit. C'est pour ça que quand on affirme la parole de Dieu et l'évangile, les gens n'y croient plus. Ils se disent, c'est pas possible. Ah oui. Nous en arrivons à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est celle qui nous entretient du drame qui est le nôtre aujourd'hui. Et nous allons lire Genèse, chapitre 3, verset 1er. Écoutez bien. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Ça, c'était bien entendu, hein, d'accord ? Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Nous sommes en présence du Dieu créateur, de l'homme créature et le serpent. Vous aimez les serpents ? Vous savez qu'il y a de plus en plus de gens qui les élèvent chez eux, hein ? Waouh ! Moi, ça me fait quelque chose. C'est vrai, je crois que c'est instinctif chez l'homme, non ? On n'aime pas ça, hein ? Je sais pas. Bon, chacun ses goûts, hein. Enfin, si vous en avez un chez vous, vous me prévenez si vous m'invitez, hein. Voilà. Donc, le but de ce dernier, donc du serpent, par une subtile tentation, voilà que maintenant il y a quelque chose qui va arriver dans l'histoire de l'homme, c'est la tentation. C'est-à-dire la possibilité du bien, du mal, du choix, la conscience, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? Donc cette subtile tentation entraîne la conduite coupable de l'homme à travers deux choses. Ou trois choses, si vous voulez. D'abord, le doute, l'incrédulité. Le doute qui dégénère en incrédulité, la désobéissance qui elle-même va engendrer l'ingratitude de l'homme vis-à-vis de son Créateur, qui a tant fait, qui a tant donné, comme le Père, vis-à-vis de son Fils prodigue, de son Fils qui lui demande sa part d'héritage. La stratégie et la manœuvre, elle se fait par le soupçon, la mise en doute sur Dieu pour apporter le discrédit. Écoutez, Dieu a-t-il réellement dit, dit le serpent à la femme, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, pris dans la foi, c'est une obéissance. Nous n'en mangerons pas parce que si nous mangeons de cela, eh bien, nous sommes coupables vis-à-vis de Dieu qui nous a dit de ne pas. Il y a un danger, il y a un avertissement. Il y a quelque chose que l'homme ne savait pas. Si vous considérez que l'humanité à ce moment-là était au stade de l'enfance, c'est exactement le même processus que nous avons aujourd'hui. Nous naissons, nous avons une petite enfance, nous sommes après des adolescents, des jeunes, adultes, et puis voilà, il y a le même processus. Mais il y a eu une attaque traite et éhontée du diable à ce moment-là. Parce que l'homme a été trompé, c'est pourquoi il y a une rédemption pour l'homme, il n'y en aura jamais pour le diable. Comprenez pourquoi ? Il n'y en aura jamais pour le diable. Parce que l'initiateur, c'est le diable. L'homme a été trompé dans cette affaire, mais il aurait dû écouter. Il aurait dû tout simplement avoir foi, qui devait naturellement produire l'obéissance. Alors il y a la stratégie du soupçon, la mise en doute qui va dégénérer vers l'incrédulité totale. Je ne crois plus. Et la flatterie. La flatterie, elle est de cette manière. Quand le diable, le serpent, nous pouvons l'imaginer avec cette moquerie, cette caricature, il dira, mais vous mourrez point. Mais ça va pas. Vous vous rendez compte? Vous mourrez point. Mais Dieu sait, alors là c'est une accusation contre Dieu, mais Dieu sait, procès d'intention par rapport à Dieu, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ben oui. Que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront. C'est vrai que ça va se faire. Elle en donna à son mari et qui était auprès d'elle, il en mangea. Et parce qu'elle avait vu que, tout simplement, l'arbre était bon et agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence, et qu'il était bon, il était savoureux. Alors bien sûr, les yeux se sont ouverts. Mais ils se sont ouverts sur quoi? Ils se sont ouverts sur le mal. Là, le mal, il n'existait pas avant. Il était contenu dans je ne sais quelle région de l'univers. Mais là, il y a eu cette introduction. Et vous allez me dire, mais pourquoi Dieu a permis cela? Eh bien, justement, c'est pour donner toute la valeur à la liberté de l'homme. Autrement, eh bien, le diable aurait dit, regarde, t'as vu? Tu les as créés? Mais ils te sont soumis, ils t'adorent parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Ils ont pas le choix puisque c'est toi leur créateur et leur Dieu. Il y a beaucoup de perfidie dans tout ça, hein, beaucoup de mensonges. Donc la flatterie, ce qui a donné, ce que Jean dira à un moment donné, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Et là, à ce moment-là, les yeux se sont ouverts et qu'ils ont vu le mal et toutes ses conséquences. Le mal et sa cohorte de désordre, de désastre, jusqu'à la mort. La mort n'existait pas avant. La mort n'existait pas avant, je vais vous dire pourquoi. Parce que si nous avions... Si l'homme était resté dans le jardin, dans cette dépendance, il aurait grandi, il aurait cru, je veux dire, au sens de croître, vous comprenez, et il serait devenu mature à un moment donné. Et il ne serait pas passé par la mort. Nous aurions vécu ce que Jésus a vécu sur la haute montagne de la transfiguration, une transmutation. Nous serions arrivés au point d'une maturité spirituelle, et là nous passions dans l'éternité directement, après avoir été à cette école de la terre, mais dans des conditions les meilleures. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et il nous est dit qu'il a tout dissipé. L'humanité a tout dissipé de ce que Dieu lui avait donné. On a raté l'entrée. Et aujourd'hui, nous sommes obligés, la société, le monde, l'humanité est obligée de passer par la souffrance, par les douleurs, par toutes sortes de choses. Et pourtant, c'est à travers tout cela que Dieu nous sauve encore. C'est quelque chose, hein. Je dis que l'homme a achoppé à la première école divine. Quel dommage. Qu'il lui offrait sans douleur et sans souffrance l'épanouissement et la maturité pour arriver à la plénitude spirituelle, plénitude physique, plénitude morale et plénitude spirituelle. On peut pas s'imaginer ce qu'aurait été le monde autrement. Ah, c'est sûr qu'il y aurait du chômage aujourd'hui, il y en a déjà, mais il y en aura encore plus, hein. Plus de gendarmes. Plus de policiers, plus de tribunaux, plus de juges, plus de docteurs, enfin plus de médecins, plus d'hôpitaux, etc. Imaginez, mais on aurait inventé autre chose. Ça va, vous suivez quand même? On va très loin là, quand même. Alors l'humanité va désormais devoir apprendre par l'expérience de la souffrance, de la peine, du chagrin et des drames. Mais vous savez, il y a de quoi pleurer à voir notre monde d'aujourd'hui et comme ceux qui nous ont précédés. Quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit le sang, quand on voit qu'il n'y a pas que la pluie qui nourrit la terre, mais il y a le sang des hommes sur les champs de bataille et des vies qui sont fauchées, toutes sortes de choses, dont les conséquences malheureuses sont ainsi décrites, hein, tout simplement dans Genèse, quand il est dit ceci, au verset, alors faut que je reprenne le bon chapitre, c'est le chapitre 3 exactement, quand il nous est dit ceci, donc à travers les versets, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Puis il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné. Parce que le commandement, c'était Adam qui l'avait eu, c'était pas Ève, hein. Nuance. Mais lui, il a obéi sans réfléchir. Excusez-moi, hein, on pourrait dire autre chose, mais Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, d'où tu étais pris, parce que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Quel monde bouleversé, quel monde chamboulé, quel monde sali, quel monde complètement dénaturé. C'est la conscience douloureuse du mal que nous portons encore de génération en génération et de siècle en siècle. Avec tout son cortège de honte, tout ce cortège de culpabilité ou de culpabilisation, vous le donnez comme vous voulez, hein, le cortège de peur, c'est ce qui nous est dit. Quand Dieu appelle Adam, mais où étais-tu? Ah, Adam lui dit, mais j'ai eu peur, alors je me suis caché. La peur, c'est omniprésent, c'est quelque chose de terrible. Il n'y a pas un homme qui n'a pas peur dans ce monde. Peur de vivre, peur de mourir, ou peur de manquer de ceci et cela. La nudité totale. Ah, parce que j'étais nu. Mais c'est pas seulement une nudité physique, une nudité morale, une nudité spirituelle. La division et la querelle. Parce que quand division et la querelle, ça commençait par le premier couple. Quand il nous est dit ceci, alors les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Mais l'Éternel va poser des questions à un moment donné. Alors, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Au verset 12, l'homme répondit à Dieu, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serment m'a séduite et j'en ai mangé. » Vous comprenez ça? C'est la rébellion, c'est la division, c'est les querelles. Ah oui, mais c'est la femme qui m'a dit, hein. Attention, c'est toujours l'autre, hein. C'est la société qui est coupable de tous les... C'est jamais nous, hein. C'est Dieu qui est coupable. C'est toujours les autres qui sont coupables. Alors Adam... Mais qui t'a dit de manger de l'arbre? Moi, je t'avais dit le contraire. Ben, c'est ma femme. Enfin, je voudrais pas mettre la zizanie dans les couples, hein, mais. Non, mais c'est ça, hein. Et c'est un virus qui demeure et qui continue à voyager dans toute l'humanité. C'est toujours l'autre. La femme dira, mais c'est le serpent, et puis ceci et cela. Il n'y a jamais personne de coupable. Et c'est bien le problème, justement, que pose ce déchargement sur les autres. Parce que, à travers cette mentalité, c'est inné, nous n'y pensons pas, mais à travers cette mentalité, eh bien, à ce moment-là, nous avons du mal à nous repentir. Parce que la repentance, c'est vraiment le contraire. C'est moi qui prends conscience de mon mal, de ma perdition, et que je demande personnellement pardon à Dieu. Comprenez, ça ferme la porte à la repentance, ça, tout ça. Naturellement. Alors, le prix de la rupture nous est donné à travers, eh bien, versets 16 et 19, où il est dit ceci. Alors, ou 20 par exemple, Adam donnant à sa femme le nom d'Ève, Isha en hébreu. L'Éternel dit Dieu, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître la connaissance du bien et du mal. Empêche-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, il le mit à l'Orient d'Éden, et vous connaissez la suite, vous pourrez le lire. Voilà, tout simplement. Douleur, nous est dit, dans cette perdition de relation, dans cet effacement de la conscience de Dieu et de la vie de Dieu et de l'intimité de Dieu pour nous-mêmes, eh bien, c'est que la femme donnera la vie maintenant avec des souffrances. C'est que l'homme, de son côté, eh bien, n'aura que peine et misère sur une terre qui sera maudite. Et ce qu'il pourra tirer de cette terre maudite, ça sera vraiment avec un prix de peine. Et puis il y aura cette exclusion et cette errance de l'humanité ici-bas. Il nous est dit qu'il a été chassé du jardin. Brièvement, Paul ouvre une première fenêtre sur la réalité d'une humanité sans Dieu, en rupture avec ses sources vitales. Vous pouvez avoir des belles fleurs dans un vase, mais elles ne dureront que ce qu'elles pourront durer parce qu'elles ont été coupées de la source de vie, c'est-à-dire du pied de la plante. Comprenez ? Eh bien, c'est exactement l'image que l'on peut prendre. Et dans cette figure, ou dans cette figuration, vous mettez ce que vous voulez dans les mots, mais une chose qui est certaine, c'est quand il nous est dit, par exemple, dans Romains, écoutez, parce que c'est clair, 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà le verdict qui est posé par Dieu. C'est pas de l'évolution, ça. C'est de la création. Mais une création qui a été avortée non pas par le Créateur, mais que nous avons nous-mêmes, de nos propres mots, de nos propres mains et par notre propre volonté, amenés à avorter. Et quand le mot avortement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la vie, tout simplement. Ou une vie, nous pourrions dire sans durée. C'est-à-dire que une vie, elle n'est pas pérenne. Elle est que pour un temps, malheureusement. Et ça a été la contagion de l'espèce. Hors du paradis, écoutez bien, parce que ça c'est quelquefois notre problème en tant que chrétien, hors du paradis, l'effort des hommes ne produira que des épines. Et nous-mêmes, tant que nous resterons sur une conception de la vie chrétienne par rapport à la loi, eh bien nous ferons tous nos efforts, mais ça ne sert à rien. Si nous nous plaçons sur dans le registre de la grâce et de la foi, alors à ce moment-là, eh bien, Dieu fera, et il a déjà fait, ce que nous ne pourrons jamais faire, parce que c'est pas la chair maudite qui peut apporter, qui peut attirer la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi toute l'histoire de la Bible commence par la loi d'abord, il faut donner la conscience aux hommes qu'ils sont perdus, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Et ensuite, le Nouveau Testament, si le premier a été complètement effacé, et qu'il y en a eu un deuxième que l'on appelle le Nouveau Testament avec l'avènement du Sauveur et du Rédempteur, c'est que là, à ce moment-là, eh bien, l'un est devenu caduc et l'autre l'a remplacé parce que nous sommes sauvés par la grâce. Tant que je serai et que je prêcherai la grâce, mes frères et sœurs. Ah oui, parce que c'est ça. C'est pas autre chose. C'est l'amour de Dieu, les compassions de Dieu et la grâce de Dieu qui nous sauvent. C'est pas la loi. Autrement, il n'y aurait pas eu de Nouveau Testament. Et Jésus ne serait pas venu. On serait resté encore avec un système lévitique de sacrificateurs, de prêtres, de religions et tout cela. Mais nous sommes rentrés dans une autre dimension, nous sommes rentrés dans une dimension de l'esprit. Et c'est autre chose. Par la foi dans l'esprit. La foi de l'esprit. Alors, cette humanité qui n'a fait que pousser des épines sanglantes, qui déchire la vie des hommes. Parce que tant que nous voulons faire un effort, nous n'y arrivons pas. Et plus nous faisons des efforts, plus nous désespérons, plus nous épuisons. Regardez le système des religions, c'est ça. Hein. C'est terrible. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné la révélation d'autre chose. Hein. Et que maintenant nous pouvons vivre dans le repos de la conscience, le repos du cœur et le repos de nos pensées et de l'esprit. C'est formidable ça. Nous trouvons notre repos et notre paix en Jésus-Christ. Quel miracle tout cela. Et Paul évoque encore ce dilemme de l'humanité à quelque niveau que ce soit, quand il dira ces paroles, parce qu'elles sont belles, il faut les citer, même si je vous retiens jusqu'à ce soir, mais il faut les citer quand même. Hein. Il nous est dit « la loi est donc saine, et le commandement est saint, il est juste et bon ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces choses? Et il dira « mais... c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devienne condamnable au plus haut point. Si je n'avais pas connu la loi, je ne savais pas que j'étais perdu. Mais Dieu a donné la loi pour que je prenne conscience que je suis perdu et que là je trouve et je cherche et je demande et j'implore que Dieu m'envoie un sauveur. Et ce sauveur il est venu. Nous sommes le jour de Pâques, hein. Et ça je le crois de tout mon cœur. Parce que Paul va rentrer dans une double nature, il va faire la connaissance de sa double nature. Il dira, mais la loi, elle est spirituelle, et moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Alors, comment peut-on s'en sortir de tout cela? Eh bien, c'est tout simplement le principe de la grâce. Ce n'est pas par mes efforts, mais c'est par les mérites de Jésus. Et c'est parce que Dieu a fait pour moi. Et son fruit épouvantable de ce travail de l'humanité pour essayer de gagner son ciel, ou de compenser le mal par le bien. C'est la loi tout ça, hein. Avec ses conséquences répugnantes et épouvantables que l'on appelle la mort. Et quand vous lisez les lignes de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est parlé du premier Adam et il est parlé du nouvel Adam. Et nous faisons partie du second Adam. Ouais. Il y en a un qui est mort et l'autre qui est ressuscité. Il est mort, hein. mais le second est mort pour nous et il est ressuscité. Et je trouve toute ma foi et toute ma force dans ce que Jésus a accompli à ma place. Troisième histoire et je termine. La malédiction du serpent. Chapitre, versets 14 et 15. Parce que ça, c'est la clé. Je mettrai, dit Dieu, inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui baisseras le talon. Ça, c'est la déclaration du salut avant l'évangile. Des siècles et des siècles avant, dès le moment où il y a eu la chute, Dieu avait déjà le plan de rédemption. Que l'homme allait devoir retrouver le jardin où nous pourrions dire l'Éden, mais non pas dans le bonheur et dans tout ce qui pouvait être idéal, mais à travers la souffrance, mais il faut passer par là. C'est l'espoir pour un monde perdu, condamné, exprimé justement à travers tout le message de l'Évangile. Et de cette aventure désastreuse qui a ruiné la belle carrière de l'homme, parce qu'il faut mettre les mots comme ils sont, nous avons besoin de replacer maintenant les protagonistes selon leur place respective. Dieu créateur, le Père trahi, pour être rejeté par le Fils, par sa créature. Dans le livre ou dans la parabole, c'est le Père qui a été trahi par son Fils, qui l'a abandonné, Fils prodigue. Ensuite, l'homme qui a été créé, qui est devenu un ingrat, comme le Fils prodigue. Il est devenu infidèle, il a quitté la maison, il est devenu rebelle, pour vivre dans la débauche et dans toutes sortes de choses. Maintenant, Satan, qui est présenté comme l'usurpateur, celui qui prend la place de quelqu'un, le séducteur, le menteur, qui prend le pouvoir sur le monde par le mensonge. Et Paul, quand il écrira dans ses épîtres que les hommes ont été et sont sous la puissance du prince de l'air, le prince de ce monde, même Jean ira jusqu'à écrire que le monde entier gît dans le malin. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous en avons les preuves tous les jours autour de nous. Où est Dieu dans tout ça? On l'a mis à la porte, on l'a évacué, on lui a dit on n'a pas besoin de toi, on sait faire les choses. Ah bah oui, mais quand on a bien su faire les choses, pour tout casser, et pas pour aller dans la bonne direction. Puis le vainqueur, Genèse chapitre 3 verset 15, le vainqueur, qui était envoyé pour répondre aux soupirs de l'humanité tombée dans l'esclavage, comme le peuple d'Israël, comme le peuple des Hébreux en Égypte. Pendant 430 ans, ils en soupiraient. Envoie-nous un sauveur. Ce sauveur, il est venu sous l'aspect d'un homme qui s'appelait Moïse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas la loi. Il nous fallait quelque chose de plus grand que Moïse. Celui qui est venu, ce sauveur, qui entend les souffrances de l'humanité. Nous l'avons chanté à travers quelques cantiques ce matin. Eh bien, il s'appelle Jésus. C'est lui qui est la réponse. C'est lui qui est la clé. C'est lui qui est la solution à tout notre esclavage. C'est pourquoi que lorsque nous prêchons l'évangile, nous prêchons la guérison divine, nous prêchons la guérison de l'âme, nous prêchons le salut et nous prêchons la libération, la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dira Jésus dans les prémices de son ministère. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, les pauvres qui soupirent, les pauvres esclaves, moraux et dans tous les domaines. Il m'a donné d'ouvrir les yeux des aveugles. Ah oui, les yeux s'ouvrent. Ils se sont ouverts sur le mal, mais maintenant nous voyons que la réalité de Dieu, la réalité du bien, la réalité de la vérité, de la justice, et d'une vie autrement, d'une vie éternelle, eh bien nos yeux se sont ouverts. Le voile a été ôté quand les hommes se convertissent. Vous comprenez? Je ne fais que des citations bibliques. Je les mets à ma manière, mais c'est comme ça. Alors, ce Sauveur est venu pour nous rendre la vraie liberté, et nous ramener dans la maison du Père, nous ramener dans l'Éden, si vous voulez, en quelque sorte. En attendant l'Éden définitif, parfait, celui qui est au ciel. Parce que nous marchons, frères et sœurs. Oui, nous marchons. Et nous marchons dans la bonne direction aujourd'hui. Vous en doutez? Eh bien, n'écoutez pas justement les voix qui vous disent « Eh bien, t'es pas un bon chrétien, t'es pas ceci, t'es pas cela, etc. etc. » Le Seigneur nous a choisis et il nous a élus, il nous a pris pour que nous puissions porter des fruits et que nous soyons revêtus de l'image de Christ que nous verrons de l'autre côté, non pas par la foi, mais par la vue. Finalement, une histoire qui finit bien, parce que la conclusion, on va la reprendre là où on a commencé, tout simplement, dans Luc, quand il nous est dit ceci. Alors il alla se mettre au service d'un habitant du pays, parce qu'il était tombé dans la misère et dans la déchéance, et qu'il l'envoya dans ses champs garder les pourceaux, imaginez-vous, suprême indignité pour un juif, parce que c'est une histoire de juif là, suprême indignité pour un juif d'aller garder des cochons. C'est pour monter la position de cette humanité qui est bien tombée bas. Alors il avait faim, il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux. Et là, à un moment donné, c'est ce qui nous fait que c'est l'image du salut, étant rentré en lui-même, il a fait cette réflexion parce qu'il était malheureux. Et si les hommes sont malheureux, si nous sommes malheureux, si nous avons été malheureux, nous avons crié à Dieu, eh bien il est venu nous répondre, hein, pour nous sauver. Il dira, mais combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Que cette humanité qui est autour de nous puisse mourir de faim sur le plan moral et spirituel et de dire, eh bien, Seigneur, viens, sauve-moi. Ça s'appelle la repentance, prise de conscience de notre perdition et repentance. Viens, Seigneur, j'ai faim. Et nous, quand nous nous sommes convertis, c'est que nous avions faim de vie, faim de vérité. Pour tous ceux qui avaient la peur de mourir, eh bien, nous avons eu la réponse. Alors, je meurs de faim. Alors je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Connaissez la suite. Et il se leva, il alla vers son père, il lui a dit tout cela. Et que croyez-vous qu'il s'est passé quand le père, qui était certainement dans l'attente depuis des années, qu'il était là peut-être sur la terrasse de sa maison, c'est une vue de l'esprit, hein, c'est moi qui le dis. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il était toujours en train de regarder sur ce chemin par lequel il avait vu son fils lui tourner le dos pour aller dans un pays éloigné et se perdre. Et là, un beau jour, il a vu ce fils. C'était plus son dos, il l'a vu de face à ce moment-là. Il ne l'a peut-être pas reconnu dans la premier aspect. Mais puis il voyait que son fils se rapprochait, enfin cet homme, cette silhouette se rapprochait. Il devinait certainement, eh bien là, quelque part, les traits, oh ces traits, ils avaient été défigurés. Ce fils revenait peut-être vieilli, il venait malheureux, il avait peut-être des sillons autour de, sur ses joues, parce qu'il avait souffert. Ouais, comme notre humanité. Et là, quand il l'a vu arriver dans des oripeaux de misère, nu, le père, il lui a dit, allez, mécréant, tu retournes d'où tu viens parce que tu m'as trahi. Non, c'est pas comme ça. C'est pas la loi. C'est la grâce. Quand il a vu son fils revenir, alors à ce moment-là, c'est lui qui est descendu pour aller au-devant de son fils. Ça, c'est le salut que Dieu nous a donné. Il est venu au-devant de nous. C'est pas nous qui avons été au-devant de lui parce qu'on ne le connaissait pas. Alors, il s'est précipité, il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé. Et puis, il lui a redonné tout ce dont il avait besoin. C'est le retour au point de départ que nous n'aurions jamais dû quitter. Vous comprenez un peu la souffrance de l'humanité aujourd'hui? Et le grand salut de Dieu, eh bien moi je dis que notre Dieu, il est merveilleux. Et vous savez, Pâques, c'est ça. Il a fallu que quelqu'un paie à notre place parce que nous étions morts, mais morts pour l'éternité. Quelqu'un a dit, non, non, moi je veux qu'il vive. Mais à une condition, c'est qu'il croit en moi, dans ce que je vais faire, dans ce que j'ai fait. C'est ce que nous avons saisi. C'est une histoire qui finit bien. Mais il y en a encore tellement dehors qui ne sont là, à rester comme ils sont, hein, comme nous étions. Moi, je voudrais vous dire simplement une dernière phrase. Mes frères et sœurs, croyez à l'amour de Dieu qui pardonne. Ouais, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand. Et vous savez, toute l'histoire humaine, elle est fondée sur un mot, c'est le mot sacrifice. Il y en a un qui s'est sacrifié pour nous. Dieu nous avait donné ce qu'il y avait de meilleur, nous l'avons perdu. Mais nous pouvons revenir. Le mot sacrifice. Et ça sera toujours, eh bien, l'expression de l'amour et de la compassion de Dieu pour son humanité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui va beaucoup plus loin que notre imagination, que notre intelligence, que notre compréhension. Comment, Seigneur? Comment te dire? Comment trouver les mots, comme nous le chantons, pour te dire « je t'aime » Et Seigneur, si moi je te dis « je t'aime », alors c'est vraiment quelque chose de très faible. Quelque chose qui est si petit, Seigneur. Mais moi je suis confronté à ton amour infini. Je suis confronté, Seigneur, à ce que nous avons pu étudier ce matin, et qui nous montre qu'en effet, cette humanité et chacun d'entre nous, nous étions certainement à la ressemblance de ce fils prodigue qui a tourné le dos, qui a trahi son père. Mais une chose qui est certaine, et la plus belle et la plus grande de toutes les nouvelles qui puissent exister, c'est que nous avons la possibilité de revenir dans la maison. Nous avons la possibilité de de rentrer, Seigneur. En effet, là où nous avons été faits, et pourquoi nous avons été faits, et dans le but, Seigneur, de ce que nous avons été créés pour adorer Dieu, pour vivre, Seigneur, du bonheur de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la joie du ciel, dans cette dimension où nous pouvons tout à nouveau, eh bien, reprendre l'arbre, les fruits de l'arbre de vie, parce que c'est l'éternité, Seigneur. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Aide et bénis ton Église. Visite-nous les uns et les autres. Aide-nous à bien comprendre, Père éternel, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Que cela ne vient pas de nous, mais que c'est le don de Dieu. Merci, Seigneur. Tu nous visites et imprègne-nous, Père éternel, de cette notion tellement merveilleuse, céleste, divine, de la faveur et de la grâce et de l'amour de Dieu. Merci, Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.